Ouais, bonne soirée et merci d'être venu aussi nombreux pour cette deuxième table ronde qu'on organise ici même. Bon, c'est très modeste, mais bon, ça participe de cette idée que on a quand on se croise souvent pendant les concerts ou les spectacles qui sont présentés, et finalement on a assez peu l'occasion de débattre ou de parler de cette pratique qui nous intéresse, nous, en tout cas l'association IREA, qui est l'improvisation. Donc, bien sûr, table ronde ne veut pas dire conférence, surtout pas, c'est-à-dire on va proposer une thématique, et la parole, bien entendu, doit circuler entre nous dans la fluidité la plus respectable. Ok. Pour l'organisation, avant le concert de 20h30, donc, qui a lieu dans l'autre salle, qui sera donné par Jonas Kocher, ici présent, qui joue l'accordéon, et Gaudenz Badrut, qui joue de l'électronique. Tu joues de l'électronique, on dit comme ça. Je joue de
l'électronique.
Qui viennent de Vienne, en Suisse. Donc ils sont aussi des musiciens impliqués dans leur pays, dans l'organisation de concerts. Enfin, ils sont très actifs dans la vie musicale qui est très riche de ce pays qui s'appelle la Suisse. Donc il y a aussi des petits trucs à manger, voilà, pas très cher, des petites tartes, des choses comme ça. Donc si vous voulez rester là pour vous sustenter entre les deux, pour ceux qui restent pour le concert bien sûr, voilà. Maintenant je donne la parole à Bernard Astier.
Moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire.
Moi j'ai pas grand chose à ajouter puisque Michel a tout dit déjà. On est très heureux de vous accueillir. C'est donc la seconde manifestation de ce type qu'on tient, puisque l'influx a le caractère numéro 2, qui suit dans l'influx numéro 1 où il y avait déjà eu une table ronde qui avait parlé de l'improvisation d'une manière générale. Aujourd'hui, on voudrait plutôt parler de l'improvisation en musique, quand même. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par la musique, plus que par d'autres formes, disons, artistiques. Nous, les axes de réflexion qu'on voudrait mener, ce n'est pas tellement une étude, un petit peu comme on avait fait l'an dernier, un petit peu historique et chronologique du rôle de l'improvisation dans la musique, mais plutôt parler aujourd'hui des enjeux esthétiques et politiques qui sont, disons, derrière les pratiques musicales et qui sont derrière, disons, les pratiques des improvisateurs. Voilà un petit peu notre propos aujourd'hui, c'est autour de ça qu'on voudrait vous donner, recueillir vos témoignages et vous donner la parole. Je cite, pour ne pas paraître pédant, mais je dis d'où ça vient du travail qu'a fait Lekuanin, qui est quelqu'un que vous connaissez sans doute fort bien, qui va résumer un petit peu, il y a une phrase dans ces témoignages qui résume, bon, le témoignage c'est l'abécédaire en gros des improvisateurs, ou du moins les dernières moutures qu'il a faites de ces textes-là. Ce qu'il raconte, lui, c'est que l'improvisateur, je voudrais qu'on réfléchisse autour de ça, vit pleinement sa singularité, le terme important, c'est singularité, peut-être comme une solitude, je répète ce que je dis clairement, au service d'un projet collectif. Donc, au départ, les enjeux esthétiques pour nous, c'est comment, disons, l'improvisateur vit sa singularité, disons, c'est-à-dire comment, finalement, il met ce qu'il développe, disons, à travers son écoute et la pratique de son instrument, l'ensemble de son monde de perception. Et au départ, pour moi, l'improvisation, c'est quand même un moyen d'accroître, de multiplier ses données perceptives. Alors là-dessus, les problèmes d'écoute, de mémoire, en fait, tout ce qu'on voudra, pourront être, disons, abordés, les problèmes du corps, etc. Par contre, mettre sa singularité au service d'un projet commun, c'est ça, comme pour moi, l'aspect disons, politique, qui ressortit, disons, une position globale, bon, on sait d'où on vient, du refus, finalement, de la mondialisation libérale, mais avec des choses plus particulières en ce qui concerne les pratiques, disons, de l'improvisation, qui sont les problèmes de solidarité entre musiciens, les problèmes d'échange, ou également les problèmes de refus de la hiérarchie dans la prise de parole d'un musicien par rapport aux autres. Bon, voilà un petit peu, moi, c'est le cadre général que je donne à cette introduction. Donc, à partir de là, bon, on est prêt, disons, à recueillir des témoignages. Par exemple, on pourrait partir de comment, de plusieurs choses, sur comment vous en êtes arrivé, vous, les uns et les autres, à l'improvisation, quel est votre problème, disons, de frontalité entre les rapports que vous avez lorsque vous vous mettez en scène, finalement, ça revient à ça, devant les spectateurs, hein, quels les échanges qu'il peut y avoir ou non avec les spectateurs, et bon, on ne peut pas dire de ces choses-là. Je ne sais pas qu'est-ce que t'en penses, Michel, je vais m'arrêter là pour l'instant. Hein.
Oui, disons que, un peu pour synthétiser, l'axe très fort pour nous, c'est cette apparente contradiction entre un trajet complètement solitaire, complètement, une solitude réelle de chaque improvisateur, qui est toujours confronté non pas qu'à son instrument, mais aussi à la survie de sa pratique, parce qu'il y en a très très peu qui peuvent prétendre et dire qu'ils vivent bien de cela, partout dans le monde. Donc comment cette extraordinaire solitude est toujours reliée à une, je veux dire, à une mise en acte collective. Le collectif n'étant pas dans ce sens-là défini comme tel, puisque c'est un collectif souvent occasionnel. C'est-à-dire que les gens se rassemblent parfois pour un temps X qui est en général pas très long. Ça va de un jour, ou voire une heure, jusqu'à peut-être 15 jours au maximum, 3 semaines, etc. Donc c'est cette apparente contradiction. Alors est-ce que cela préfigure, ou est-ce que ça, c'est un modèle, entre guillemets, de façon de vivre dans cette société de musique? Parce que c'est une société musicale, on peut dire, hein, puisqu'elle a son milieu, elle a ses différentes ses légendes, elle a ses familles, ses esthétiques, ses points de vue différents, etc. Mais il reste cela tout le temps, ce trajet complètement solitaire, complètement individuel, face à son instrument, face à sa pratique, mais toujours avec l'autre. Voilà, je ne sais pas, c'est un point de vue, peut-être il peut être contredit par certains, puisqu'il y a des gens qui pratiquent aussi l'improvisation avec des groupes choisis. Ça, c'est très différent. Donc déjà, il y a une contradiction à ce que je viens de dire. Mais je pense que et certainement parce qu'aussi l'économie ne permet presque plus de maintenir des groupes, on a beaucoup, beaucoup de mouvements. On observe beaucoup de mouvements, les improvisateurs se déplacent, se retrouvent, se quittent, reforment d'autres ensembles, se lâchent, etc. etc. On a quand même affaire à ce mouvement. Donc il y a, cet axe-là est très fort. Alors est-ce que c'est un modèle de société, ou est-ce que c'est par défaut qu'on agit comme ça, qu'on est obligé de se retrouver dans ces situations-là? Nous autres avons jamais de possibilité d'avoir du fric pour travailler, par exemple, pendant 15 jours, comme peuvent le faire les gens du théâtre ou de la danse dans un lieu, d'élaborer une idée, de l'amener jusqu'au bout, etc. C'est très peu souvent qu'on a ces possibilités. On a des fois quelques heures avant un concert, la veille, etc. Et c'est très peu souvent qu'on a ça. Donc ça peut être aussi par défaut qu'on se retrouve dans ces situations-là. Et effectivement, ça peut-être entraîner au niveau formel ça peut avoir une conséquence réellement au niveau formel, au niveau de la forme musicale de ce qui est proposé. Donc aussi, ça veut dire, est-ce que la forme musicale qui est proposée, est-ce que chacun de nous en avant une sorte de, j'allais dire, de maîtrise, ou bien est-ce que cette forme musicale est façonnée aussi par la situation, par le contexte? Donc pour moi, il y a aussi un peu cela qui est posé dans le politique. Et aussi, une autre chose qui m'intéresse vraiment au niveau plus individuel, c'est comment chacun de nous, et si chacun de nous a une interrogation, est-ce que la réalité, est-ce que le politique intervient dans son travail personnel? Si oui, à quel niveau? Ça, c'est des questions que j'aimerais entendre, que j'aimerais aussi développer. Est-ce que quand vous êtes tout seul avec votre instrument, ou avec la réflexion sur l'instrument, est-ce qu'il y a une considération du politique?
Enfin, moi, je dis simplement que je pense que, pour continuer ce que tu viens de dire, que la première instance politique dans l'affaire, c'est un niveau de perceptif, c'est-à-dire, c'est quand même, si on met sur une scène pour improviser, c'est quand même contre le formatage, disons, des cultures, entre guillemets, dominantes. Hein. Pour éviter les redites, les répétitions, le matraquage, bon, non.
J'espère qu'on peut entendre.
Bon, s'il y a, disons, un accord politique, c'est quand même aussi d'abord sur les perceptions, mon avis. C'est avant tout par rapport à ça. Bon, je m'arrête. Hein.
Bon, je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer.
Moi, je suis content de voir qu'il y a quand même des différentes générations aussi de musiciens qui sont là. Hein. C'est quand même peut-être très intéressant aussi de confronter des points de vue de gens qui ont une expérience profonde, puissante et avérée dans la matière, et puis des gens qui arrivent un petit peu avec aussi de nouvelles instrumentations, des lectures auditories acoustiques, d'autres qui ne le sont plus. Quelle évolution aussi on peut attendre au niveau perceptif dans le